Salut, c'est Jay. Je suis content de vous rejoindre pour cette petite aventure du podcast Frankenstein. Pour le troisième épisode, j'avais pas participé aux deux précédents parce que tout simplement je joue pas en ligne. Donc voilà. J'avais pas grand chose à dire de très pertinent sur le sujet. Mais aujourd'hui c'est pas pareil. Parce que le sujet que tu nous as choisi, Fel, c'est le jeu de rôle peut-il changer les mentalités ? Ce qui est pour le coup un vaste sujet qui aborde beaucoup de questions, que je vais aborder en partant de moi. Et je vais commencer en confirmant qu'en effet, des discussions philosophiques, politiques ou métaphysiques peuvent avoir lieu après des parties, voire même au milieu de parties de JDR. On peut déjà, moi, citer Sens Exalogie, dont je suis un assez grand fan, hein, pour ceux qui me connaissent, et qui a permis autour de mes tables beaucoup de discussions autour des notions philosophiques abordées dans le jeu, que ce soit par un certain côté métaphysique, lié vraiment au déterminisme de sens, au côté politique de l'univers en question, ou au côté, on va dire, astrologique des différentes caractéristiques du jeu, qui sont aussi appelées des runes ou des éléments, bref. Donc, Sens m'a apporté vraiment beaucoup de réflexions comme ça avec mes joueurs et de la part de personnes, a priori, qui n'avaient pas spécialement envie de venir à un club philo. Et ensuite, il y a forcément la cellule autour de Sens, les rencontres qu'on peut faire de personnes talentueuses, ambitieuses, qui ont plein de bonnes idées. Et tout ça, ça crée une émulation, ça fait changer, c'est sûr, je pense... pour de vrai, beaucoup de gens. Mais tout ça, ça a été déjà abordé de manière assez intelligente par Corentin et Thomas avant moi, sur le fait qu'on s'enrichit personnellement en préparant des parties, ou aussi personnellement et humainement par l'échange que constitue la discussion qu'est une partie de jeu de rôle. Donc je ne vais pas trop m'épancher plus sur le fait qu'on peut changer soi-même après une partie ou après une pratique de JDR. On va plutôt aborder... changer le monde, changer les mentalités, parce qu'il me semble que c'est ça le gras dans l'histoire. Alors là, c'est marrant parce que Thomas Munier a déjà dit à peu près en substance ce que je comptais dire, sauf que je comptais pas le dire de la même manière, je suis, on va dire, un peu plus pessimiste, donc je me dis que je vais quand même vous le dire, vous en prendrez ce que vous voudrez. Donc déjà, pour moi, changer le monde, changer les mentalités, ça va être compliqué. Il faut voir quel miroir renvoie la communauté, plutôt intello, un peu friqué, plutôt CSP+, avec une certaine culture, et non une culture certaine. Souvent des jeux compliqués, il y a le problème de la peur de se montrer, etc. En plus, le milieu du jeu de rôle, les rôlistes commencent à avoir toute une partie de leur population qui arrive à 30 ans, voire 40, 50, et ça fait des gens qui sont plutôt installés et peu enclins aux grands changements, ça les rend profondément réformistes pour beaucoup d'entre eux. Et bon, ça change les choses, mais petit à petit, pas plus que le reste, j'ai envie de dire, à ce stade-là. Donc, toi, mon ami socialiste, qui te sens visé personnellement, je t'en prie, ce n'est pas personnel, car vous êtes plusieurs à être visés. Mais bon, sans rancune, hein. Il y a aussi le jeu de rôle par forum, qui est plus populaire, mais qui a été oublié, voire dénigré beaucoup par les rôlistes. J'y reviendrai pas parce que j'y connais rien. Ensuite, il y a les sujets relativement politiques. La sécurité émotionnelle, l'inclusivité, l'appropriation culturelle. Tout ça, c'est des sujets qui sont portés par le JDR, certes, mais ils n'y sont pas propres. Et c'est pas parce que ça nous vient par le biais du JDR, ce qu'elle a de le dire, le biais, que c'est le JDR qui a changé les mentalités ou qui va les changer. Toutes ces choses un peu engagées et politiques qu'on trouve dans le jeu de rôle tiennent quasiment de l'épiphénomène d'un militantisme qui existe par ailleurs, un peu comme pour le cinéma, le jeu vidéo et d'autres formes d'art finalement. Ça accompagne le changement des mentalités, mais est-ce que c'est ça vraiment qui fait changer ? Bon, après ça reste un débat de philosophe, donc là on va pas rentrer là-dedans. Mais je pense que le JDR ne peut pas changer les mentalités à cause de ça. C'est ce que soulignait aussi Thomas quand il faisait l'avocat du diable en parlant de certaines problématiques. Par contre, le jeu de rôle peut changer des mentalités. Celles de certaines joueuses et joueurs qui peuvent ensuite influencer autour d'eux. Un peu comme une avant-garde marxiste, mais perso, j'aime pas trop les chefaillons, parce que ça finit presque toujours comme ça. Et... enfin bon, si c'est... si le changement, c'est transmettre à ses enfants, Bon, c'est un peu long et je vous ai déjà dit mes positions sur le socialisme tout à l'heure. Les camarades noteront que je parle de socialisme du PS et non de la définition originelle.
Bref.
Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que le jeu de rôle a beaucoup de freins à devenir un vrai moteur de changement des mentalités. Il est surtout trop peu populaire. Cependant, il y a peut-être un format. Je pense à tous ces mini-jeux perso bricolés sur le pouce ou pas, mais en tout cas qui sont plutôt confidentiels et qui sont peut-être plus à même de devenir un format de jeu de rôle populaire. Même si paradoxalement c'est pas mon kiff à moi, mais bon. D'ailleurs, pour faire la parenthèse, en ce moment, hein, c'est le grand truc, vous avez pas pu le louper, il y a les gilets jaunes. Moi je suis pas fan du mouvement, mais on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le sujet. En tout cas, le mouvement des gilets jaunes a permis de faire émerger chez toute une partie de la population des choses qui tiennent plus des pratiques ou des idéaux anarchistes que j'avais pu observer jusqu'ici. Par exemple, ou anarchistes ou au moins libertaires d'ailleurs. Par exemple, l'absence de chef, la transparence totale, c'est-à-dire que les entrevues avec les ministres étaient filmées sinon rien. Pas de centralisation des ordres, donc une grosse disparité des pratiques selon les lieux, ce qui d'ailleurs devrait faire réfléchir certains et peut-être plus envisager des référendums locaux qu'un référendum d'initiative citoyenne, voilà, pardon. Mais donc voilà, plutôt des choses qui sont de l'ordre de l'ouverture, et surtout de la décentralisation et de l'absence d'autorité. Ce qui me fait dire que le trop long pas lu est potentiellement une piste pour l'avenir et pour une démocratisation du jeu de rôle où chacun pourrait enfin se l'approprier, plus en tout cas que sous ses formes diverses à l'heure actuelle. Amusons-nous un instant à imaginer une utopie à la rigueur. On pourrait imaginer la population, les gens se réapproprier leur agentivité, leur potentiel à imaginer des structures à travers les règles, dans le respect de tous, et le tout faisant partie d'un processus de relocalisation et d'appropriation de l'économie et de la vie politique. Moi, ça me semblerait super, hein, j'encourage ça, vraiment. Après, c'est pas vraiment mon terrain politique, de jeu non plus d'ailleurs. Donc je vous laisse faire les amis, et n'hésitez pas à demander un coup de main au cas où, à l'occasion. J'appelle cependant tout le monde à laisser faire ce mouvement de déconstruction des règles et des pratiques de jeu de rôle. Parce que ce qui va émerger d'une popularisation éventuelle du jeu de rôle, ça va pas forcément nous plaire, loin de là. Mais explorer tout et n'importe quoi comme règle ou fiction, c'est pas casser le JDR, c'est casser les carcans qu'il y a autour de lui. Donc, comme Thomas, j'imagine qu'un jeu de rôle qui serait plus à même de changer les mentalités serait plus court, moins compliqué, utilisant moins de matériel. Et j'y avais pas pensé, mais Thomas souligne vraiment ça, et je pense que c'est central finalement, plus oral, plus transmis par l'oralité, plutôt que par des textes aussi courts fussent-ils. Parce que l'oralité est vraiment le moteur d'échange, je pense, qui permettra une vraie popularisation du jeu. Et c'est pour ça que je vais conclure sur un petit avertissement de ma part sur le fait d'éviter de trop rester enfermé dans nos pratiques et dans nos goûts personnels qui peuvent vraiment sembler rédhibitoires à d'autres. Donc que ce soit nos préférences, c'est pas forcément un souci. Ce qu'il faut, je pense, éviter, c'est d'en faire un modèle ou un carcan, encore une fois. Donc j'ai envie de dire qu'il faut faire attention à l'apprentissage très long des jeux OSR, par exemple, ou à ces systèmes très compliqués de certains jeux tradis. À l'élitisme potentiel du jeu en performance, à la lecture rigoureuse des règles à la forgienne, ou encore au thème pété et beaucoup trop scandaleux, on va dire, des fois, du GN. C'est bien tout ça, mais il ne faut pas que ça, et surtout si on veut que le jeu permette un changement des mentalités, il faut qu'il puisse toucher ces mentalités, donc il faut qu'ils puissent s'ouvrir, et c'est vrai que le réduire un dénominateur commun plus accessible, plus ouvert, moins surveillé, et surtout que les personnes puissent s'approprier, ça me semble être le point central de tout ça. Et je vois que j'ai passé les 10 minutes, donc je vais faire quelques coupages pour rester sous la barre, et je vous dis à bientôt, j'ai hâte d'écouter ce que vous avez enregistré pour nous. C'était Jay dans sa cave pour le troisième podcast Frankenstein. À vous les studios!